Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 7 septembre dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Et aujourd'hui, nous vous proposons un format un peu particulier puisque c'est une heure de reportage qui vous attend. Un reportage que vous retrouverez tous les mercredis, une fois par mois. Et pour incarner ce reportage, qui de mieux que la spécialiste en la matière à Radio Présence, j'ai nommé Marie-Pierre Pavlak. Après des années à nous avoir fait voyager grâce à Immersion, elle nous propose cette année une heure de reportage chaque mois pour traiter des sujets en profondeur. Et pour ce premier reportage de l'année, Marie-Pierre Pavlak s'est rendue à Tarnos, à quelques kilomètres de Bayonne, à la ferme Emmaüs-Baudonne. Cette ferme accueille des femmes détenues en fin de peine et les prépare à la réinsertion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Bonjour, vous allez bien ?
Ça va et vous ?
Très bien,
merci. La forme ?
Bonjour.
Bonjour.
C'est très agréable.
C'est chouette.
Mendigoria.
Mendigoria.
Mendigoria, c'est.
C'est la grosse tomate basque, la plus grosse de toutes.
Okay. C'est trop bon. Moi, j'ai une petite fille qui est comptable et qui s'occupe de leur comptabilité. Elle m'a dit, je crois qu'il va y avoir une installation avec des personnes qu'on va réinsérer dans la vie et autres, qui faisaient la prison, bah, d'accord. Eh bien, j'écoute, je vais aller voir, et puis depuis j'y vais. C'est super bon. On a le goût des tomates, puis des salades, comprenez, elles étaient coupées encore toutes fraîches. Oh non, ouais. Elles sont gentilles.
C'est autre chose.
Ah oui, oui. Humainement d'abord, hein. Enfin, moi, au départ. Ça a été ça. Merci. Et après les légumes. Et au revoir, merci.
Bonjour.
Bonjour, mesdames.
Bonjour, mesdames.
Alors.
On vient régulièrement pour les légumes, mais comme j'ai mon propre jardin, c'est juste pour essayer de trouver des légumes que je n'ai pas dans mon jardin, tout simplement. Et puis c'est pas cher. Et c'est des bons produits. Pour du bio, donc c'est vraiment très bien. Et puis on fait une bonne œuvre aussi, parce que c'est par rapport à l'école, c'est par rapport à la ferme pédagogique, et je trouve que c'est très très bien.
C'est la merveille du marché. Non, Rose de Berne.
Yes. Le best, je sais, 30. 30
après. Un peu plus de 16 heures, un jeudi du mois d'août. Nous sommes à Tarnos, dans les Landes, à l'entrée de la ferme de Baudonne, route de l'Abbé Pierre. Une ferme qui, sur près de 3 hectares, produit toute l'année sous terre et en plein champ des légumes certifiés agriculture biologique. Une ferme agroécologique, comme il en existe beaucoup ? À première vue, oui, peut-être. Une première impression vite balayée. Les jeunes femmes qui, comme tous les jeudis après-midi, vont de leur production, accompagnées, épaulées par des bénévoles, sont des détenues sous main de justice. Accueillies là, en pleine nature, dans ce havre de paix, pensé comme un endroit de transition entre la prison et la société civile, entre l'isolement et le retour à la vie extérieure, elles réapprennent à vivre en travaillant la terre dans cette ferme placée sous le double regard de l'abbé Pierre et des prêtres des missions africaines, comme nous le dit à notre arrivée, Kepi Mweska, à l'origine du projet et directeur aujourd'hui de la structure.
Vous rentrez ici sur le domaine de Baudonne. Ici, donc, pendant près de 2 siècles, c'est les missions africaines qui étaient propriétaires. Et on leur a acheté le bien il y a 5 ans. Quand je dis « on », c'est Emmaüs. C'est un lieu dans lequel on a fait beaucoup de missionnaires qui sont allés en Afrique. Donc, cette maison... En 1808, il y a le Napoléon Bonaparte qui a dormi une nuit. Et oui, c'est pas rien. L'abbé Pierre a dormi lorsqu'on a inauguré la route Abbé Pierre, là, juste devant, donc, il y a une trentaine d'années. Il a dormi ici. Puis en décembre dernier, l'ancienne garde des Sceaux, Mme Taubira, aussi, qui a dormi dans ce lieu.
Bon, c'est une maison qui a reçu des hôtes de marque.
Oui, sans parler des dames que nous avons aujourd'hui actuellement en résidence, évidemment.
Évidemment, évidemment.
Donc, je vous expliquais, elle travaille au champ depuis 6h30 du matin. Ça rigole pas ici. Il y a des gens qui se disent, ouais, mais ce que vous faites là, le placement extérieur, c'est pas véritablement une peine, c'est pas la prison. Je dis, venez voir le matin, venez à 6h30 du matin avec elle travailler, vous allez voir si c'est le Club Med ici. Non, elle travaille sérieusement. Il y a un cadre qui limite beaucoup en liberté d'aller et venir. Elles ont beaucoup d'obligations. Elles sont soumises au règlement intérieur, mais aussi à ce que le juge d'application des peines qui gère notre établissement leur impose. Donc voilà, c'est véritablement le placement extérieur, une forme de sanction qui ne génère pas évidemment les effets délétères de la prison. Ici, elles travaillent, elles sont en rapport, entre guillemets, à la vraie vie, à celle qui est menée par le rythme du travail. Elles ont une vie communautaire, puisque nous vivons tous et toutes au quotidien ensemble. La partie privative, c'est évidemment les chambres, chacune a sa chambre. C'est un lieu dans lequel
elles retrouvent un peu d'intimité aussi.
Tout à fait, oui, un rapport à l'intimité. Et puis après, tous les après-midi, elles ont des activités qui sont liées à ce qu'on appelle l'insertion, de façon générale. Ça passe par les soins. Il y a beaucoup de soins qui sont prodigués aux personnes que nous accompagnons parce qu'elles sont dans un état physique, psychologique très lourd. Et donc tout ceci doit être pris en charge par des professionnels. Et puis après, il y a faire les commissions, faire des activités diverses et variées, toutes liées à la préparation du demain. Hein, ce demain qui pour certains est très attendu parce que certaines d'entre elles ont beaucoup d'années de prison. Voilà un petit peu la présentation de notre lieu en quelques mots. Or, c'est un lieu emmaüsien. Hein, vous voyez derrière vous.
Et d'ailleurs, ce que je vois derrière vous, vous avez
photos.
Voilà, trois photos qui disent beaucoup de ce lieu, de vous-même, et puis de ce lieu, de sa vocation.
Oui. Alors, pourquoi ces trois photos? Parce qu'habituellement, même dans les lieux estampillés Emmaüs, on ne voit qu'une photo. Majoritairement, c'est un homme portant un béret avec un sourire d'un homme saint. C'est l'abbé Pierre, évidemment. Mais j'ai tenu à ce qu'il ait sur sa gauche Lucie Coutaz, qui a été sa secrétaire pendant 40 ans. Et qui a été une femme qui a un rôle considérable dans le démarrage et les premières décennies de ce mouvement. On dit qu'elle lui a évité de faire beaucoup de bêtises. Donc Lucie, c'est important aussi de mettre cette dame à sa place parce que c'est un milieu très, très mâle, le mouvement Emmaüs. Alors depuis quelques années, évidemment, ça se féminise parce que malheureusement, il y a de plus en plus de femmes et femmes seules ou femmes avec enfants qui se trouvent à la rue, donc qui maintenant aboutissent dans nos structures. Mais au début, c'était majoritairement que des hommes qui étaient accueillis par le mouvement. Et puis la troisième personne, c'est Georges Leguet, qui est le premier compagnon d'Emmaüs. C'est un homme qui avait fait 20 ans de bagne à Cayenne. Et au sortir du bagne, il était sorti au bout de 20 ans, par le fait qu'il avait une amnistie, parce qu'il avait sauvé dans un incendie un surveillant de prison, donc du bagne. Et donc, il revient à Paris, comme beaucoup de prisonniers d'aujourd'hui, il ne retrouve pas sa place dans la société, il est désespéré, et cet homme veut se suicider. Et sa grande chance, c'est que Lucie, dont j'ai évoqué le nom précédemment, était sa voisine. Et sa voisine va voir donc l'abbé en disant « Mon petit voisin, ça ne va pas fort, il veut se suicider, il a fait 20 ans de bagne, etc. » Et puis l'abbé est allé le voir, tout simplement, et il lui a pas dit à Georges le discours entendu de dire « Je vais vous aider, mon bon monsieur ». L'abbé lui a dit « David, tu en fais ce que tu veux, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour aider plus pauvres que toi. » Et évidemment, donc Georges l'a suivi. Et cet après-midi-là, ils sont allés, l'histoire dit, soutenir une dame qui était avec ses enfants dans un taudis. Ils ont réparé un petit peu des trous qu'il y avait dans le toit. C'est ainsi qu'a débuté la merveilleuse histoire d'Emmaüs, il y a de cela un peu plus de 72 ans. Voilà, donc le trio fondateur.
La Trinité, moi je dirais.
Voilà, la Trinité.
Une ferme ici, donc sous la tutelle à la fois d'Emmaüs et des missions africaines.
Alors, l'historique, c'est les missions africaines qui sont restées près d'un siècle ici. Et crise des vocations oblige, elles se sont détachées de ce bien. Et nous nous trouvons juste à côté de la communauté Emmaüs traditionnelle de Tarnos. Et il y a de cela quelques années, donc le responsable m'avait dit « Ah, les missions africaines vendent de Bodone ». Et moi j'ai dit « Banco, il faut qu'on récupère ça et qu'on monte le projet que j'avais déjà en tête, celui de l'accueil des femmes détenues ». C'est comme ça que le lien s'est fait, j'allais dire en totale confiance avec les missions africaines. Je tiens à signaler que les missions africaines, lorsque ça s'est su que le bien était vendu, ont eu une proposition deux fois plus importante de rachat du bien que ce que nous avons effectué comme proposition. Voilà. Donc, et les missions africaines ont refusé en disant non, nous, on ne veut pas rentrer dans les logiques de spéculation. Nous, on veut qu'il y ait dans la suite de notre action, une œuvre sociale. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont donné la priorité avec un chèque, je disais, deux fois moindre que ce qui était proposé par cette société privée. L'autre lien, c'est que mon oncle était missionnaire ici. L'homme qui est le plus important dans ma vie, dont j'ai le prénom et le nom, Gabi Mouesca, était aux missions africaines. J'ai sa photo lorsqu'il était...
Voyons, je peux la voir.
Il est arrivé ici à 14 ans.
Là, vous me la sortez là, de votre tiroir.
Oui, tout à fait. Regardez.
Voyons
il
ça.
Il avait 14 ans.
Oh là là,
il
oui.
était ici et c'est dans ce lieu. Et après, vous le voyez en Côte d'Ivoire, hein, dans son habit traditionnel de missionnaire. Et cet homme a été, j'allais dire, plus important encore que son frère, qui est mon papa. Il m'a forgé dans ma jeunesse. Il venait tous les 3 ans ici d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Il a posé le pied en Côte d'Ivoire le jour de ma naissance, le 7 septembre 1961. Et depuis, tous les 3 ans, il venait, comme les missionnaires en vacances, il passait 2 mois ici, entre autres, à Bodone, parce que ça servait aussi de lieu de repos pour les missionnaires qui venaient en vacances. Et j'ai le souvenir que jusqu'à mes 18 ans, chaque fois qu'on le ramenait à l'aéroport de Biarritz pour qu'il retourne en Afrique, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je ne l'expliquais pas, c'était d'un torrent de larmes. Et puis j'ai autre chose de lui. Il est décédé il y a 3 ans à la maison de retraite des missionnaires, à Montferrière-sur-Lèze. Et il y a 2 choses à son décès. D'abord, les missionnaires m'ont envoyé le document qu'ils ont envoyé au Vatican, parce que vous le savez, tous les religieux, toutes les religieuses, lorsqu'elles décèdent, leur congrégation envoie une trace de leur vie au service du Christ. Et donc j'ai reçu ce papier A4 dans lequel il y avait le résumé de sa vie de prêtre. Et j'ai appris ainsi qu'il y a 30 ans, alors qu'il était en Côte d'Ivoire, sa maison mère, donc, qui se trouve à Lyon, lui avait demandé de revenir ici pour être le directeur de Bodone, ici. Et lui avait refusé parce qu'il voulait continuer sa mission d'évangélisation. Et donc, il a refusé. Mais 30 ans après, c'est donc un autre Gabi Mouesca qui est directeur, et ce n'est que moi. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, tous les 3 ans, quand il venait d'Afrique, il était porteur d'une valise en fer blanc. Valise en fer blanc que j'ai récupérée lors de son décès.
Que vous avez toujours... Alors là, c'est derrière votre bureau, derrière la chaise.
Bureau, avec toujours l'étiquette d'Air France, donc parce qu'il prenait l'avion pour venir, et du village d'Azaguier, qui était le dernier village dans lequel il a été missionnaire. Et cette valise de fer blanc, c'est une valise de laquelle j'ai vu des choses extraordinaires sortir. Je me souviens de 2 éléments qui continuent à me marquer. J'avais vu une queue d'éléphant. Il était venu avec une queue d'éléphant. Alors ça ressemble à un balai, c'est pas plus beau que ça. Un vieux balai, mais ça m'avait marqué. Il nous avait apporté, on était à Saint-Étienne-de-Baïgorry, dans un village au fond du Pays Basque, une noix de coco. Et bon, aujourd'hui, évidemment, le commerce mondial, on a des noix de coco partout. Mais ce temps-là, il y a de cela une 45-50 ans, c'était un produit extrêmement rare, très exotique. Et donc, cette valise a nourri mon imaginaire. Et mon oncle me racontait, je pense comme tous les missionnaires, des histoires de pitons, de boas qui avalaient des enfants, des sorciers qui détruisaient des croix chrétiennes dans les villages, enfin des choses qui étaient surréalistes, qui ont nourri mon imaginaire et qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui, tout simplement.
Voilà, donc l'histoire de cette valise.
Une figure de pro pour votre oncle.
Oui, oui, oui. Ouais. Et, c'est le personnage fondateur de ce que je suis aussi, aujourd'hui.
Il vous a transmis sa foi aussi.
Je pense qu'il n'est pas étranger. Le mystère de la foi, de savoir de qui ça vient, c'est un mystère. Mais je ne doute pas un seul instant que sa vie, son œuvre a été un élément constitutif de ce que je suis aujourd'hui.
Allez, bon, on va pouvoir y aller.
Qui c'est qui avait moi?
Tu nous re-répartis, Alex, ou on retourne là où on est plus?
Non, non, c'est pas pour nous, mais... Pardon?
Tu nous re-répartis ou on
Ben non, non, on va rester comme ça pour l'instant.
Moi, je retourne les tomates.
Voilà, ouais. Je vais faire les barquettes avec Anne. Donc, la petite,
Je fais des basiliques, on a...
Ah oui, vous êtes presque fini. Ouais. Voilà. Okay. Allez, bah c'est bon, on peut y aller. Okay.
Nous avons aujourd'hui, nous accueillons 11 résidentes. Hein, ce ne sont pas des détenues ici, on appelle ces personnes-là des résidentes. Elles sont au nombre de 11 aujourd'hui. Nous avons une capacité à recevoir 12 personnes maximum. Donc nous arrivons bientôt au taux maximum d'occupation. Ça fait 18 mois qu'on est en activité. La première année était un petit peu difficile. Hein, c'était la période post-Covid. Donc les relations avec l'administration pénitentiaire, avec les établissements pénitentiaires étaient très difficiles, hein, après 2 ans de fermeture totale. Il faut savoir que les femmes, pour qu'elles viennent ici, il y a un process de recrutement qui est plus ou moins long, à peu près de 8-10 mois. Donc tout ceci explique aussi qu'on a eu un moment de montée en charge qui a été relativement long. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec 11 dames. C'est, pour être clair, une véritable charge. Hein. Nous avons des dames en grande difficulté. Et donc, avoir au quotidien autant de personnes qui ont des vies qui sont de véritables chemins de croix, hein. Je ne suis pas excessif dans l'utilisation de ce terme. Ce sont parfois des dames qui ont connu la violence intra-utérin, hein, lorsqu'elles étaient portées par leur maman. Déjà à ce moment-là, dans le ventre de leur mère, elles vivaient des violences. Souvent des violences posées par des hommes, bien évidemment. Là aussi, j'aime à le rappeler, les études sont là qui nous le démontrent. Les femmes que nous recevons, les femmes en général qui sont derrière les barreaux, sont évidemment responsables des actes qu'elles ont amenés derrière les barreaux. Et quand je dis responsables, je pense pour celles qui sont encore incapacités d'avoir conscience de ce qu'elles font. Parce que là aussi, c'est un phénomène à rappeler. Il y a de plus en plus de cas lourds, psychiatriques, derrière les barreaux. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de responsabilité pour les faits posés pour ces gens-là. Mais majoritairement, elles sont responsables. Mais le coupable, c'est toujours un homme, le coupable. Les femmes sont responsables, ce sont des hommes qui sont coupables des faits qui ont amené ces femmes derrière les barreaux. Je le rappelle inlassablement, parce que c'est une vérité aujourd'hui incontournable, et que lorsque l'on crée un établissement comme ceci, c'est aussi avec l'idée de créer quelque chose qui soit une forme de justice à l'égard de ces femmes qui sont certes responsables, mais bien souvent victimes d'un homme, victimes d'un système qui les ont broyées depuis leur naissance.
Donc ici, un apprentissage ou un réapprentissage de la vie en société, en communauté. Vous formez une communauté ici?
Nous sommes une communauté, oui, effectivement.
Il y a la communauté d'Emmaüs, mais ici, c'est la communauté de Bodone, de la ferme.
Oui, c'est une forme de communauté. Je veux dire par là que certes, elles ont, comme je vous disais précédemment, une chambre individuelle, mais le reste, la préparation des repas se fait collectivement. Le repas de midi se fait toujours obligatoirement communauté. Les repas de midi sont végétariens, exclusivement. Mais le soir, elles peuvent manger et se préparer à manger comme elles le souhaitent. C'est-à-dire, si elles veulent manger tout seules ou à deux ou à trois, elles s'organisent elles-mêmes. Et le soir, elles peuvent manger du poisson et de la viande. Et je vous prie de croire qu'elles mangent beaucoup de poisson et de viande. Mais elles acceptent aussi le fait que le midi, ce soit exclusivement végétarien. Alors, pourquoi exclusivement végétarien? Bon, déjà parce que ici nous produisons des légumes bio, et donc c'est une façon de les inciter à manger ce que l'on produit. Et puis aussi, c'est pour les amener à penser et à vivre autrement leur consommation. Nous sommes dans un monde en évolution où le regard porté sur la consommation, et en particulier consommation de la viande, se pose aujourd'hui. Eh bien, nous contribuons un petit peu à façonner une nouvelle vision citoyenne de la consommatrice de demain, et avec donc cette demande de ne manger que végétarien le midi.
Qui a fait le café aujourd'hui?
Moi.
Très bon. Ce matin, oui, mais là, il y en a eu un autre.
Ah ouais?
Moi, j'ai trop bien dosé.
Ah bon, merci.
Parce que c'est vous qui vous occupez de préparer le...
le café, le déjeuner ou un pain.
Il n'y a pas de règle sur ça. T'as envie d'un café, s'il n'y en a pas, il faut que je le fasse.
Après, on aura pour le repas du midi.
Et le repas, le repas du midi, c'est une résidente qui fait pour toute la semaine. Et après, nous, les volontaires, bénévoles et tout ça, on se greffe.
Et c'est végétarien.
Ça, tu manges bien.
Ah oui,
non,
ça, je mange bien.
Tu manges plus de pâté tout, là.
Arrêtez, tout, Emmanuel. Ah, mais si, je mange mon pâté.
Tu penses pas que c'est psychologique ou non?
Non.
Arrête, ouais, mais attends.
Ça déconne, toi, c'est bon. Je veux ma viande, c'est tout.
Non, mais tu sais, moi, j'ai été élevée à la base où il y avait une viande à chaque repas pour moi. Une assiette sans viande, c'était pas un repas.
Pas
j'ai dû vraiment prendre sur moi petit à petit pour réduire ma consommation.
Ah oui.
J'ai été élevée comme ça. Mais
de la viande ou du poisson?
Ah, mais moi aussi.
Ah ouais? Mais moi, ouais. Sans que s'il n'y ait pas de viande dans mon assiette, pour moi, il manquait quelque chose.
C'est vrai, je suis à chaque fois, j'ai fait. Allez, vas-y.
Elle a poussé.
Elle est mise derrière. Tu me violentes comme ça.
Oui, adore.
Bah, tu l'auras pas.
Vous me présentez, là c'est un projet, je vous écoute, idyllique. Je me dis, mais tout est parfait ici. Vous êtes quand même, je suppose, en but à des difficultés.
Les difficultés, elles sont énormes, elles sont quotidiennes. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, on attaque le début du mois d'août. Et pour être très clair sur le sujet, l'équipe, les professionnels, nous sommes 6, on est rincés, on est fatigué. Parce qu'on a des plages horaires qui sont importantes, évidemment, au travail. Vous avez vu qu'elles commencent à 6h30 le matin, par exemple, Alexandre, que vous allez voir, notre maraîcher est là à 6h du matin, donc ça veut dire qu'il a 20 minutes de route, vous imaginez à quelle heure il se lève, et nous continuons jusqu'à tard, à la fin d'après-midi, à les accompagner, chacun suivant le poste qu'on a ici, et la plage horaire qui s'impose à nous. Donc on est extrêmement fatigué. Nous sommes avec 11 personnes, comme je vous disais, qui ont des difficultés plus, hein, parcours de vie, des problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Tout ceci est à gérer avec la fatigue, avec la canicule. Donc c'est un petit peu, j'allais dire, explosif. Partir d'ici sans mon autorisation, c'est une évasion. Administrativement, c'est une évasion.
C'est-à-dire, elles peuvent circuler dans l'enceinte de la ferme?
Dans l'enceinte, mais sortir de l'enceinte de la ferme, c'est une évasion si ce n'est pas fait avec mon accord. Nous avons eu l'an dernier à constater une évasion. J'ai dû appeler l'autorité publique, le procureur public, la gendarmerie, pour effectuer les recherches. Il y a de cela un peu plus de 2 mois, j'ai dû renvoyer une autre dame en prison pour un comportement qui n'était pas adapté, j'allais dire, et qui n'était pas en tout cas compatible avec le règlement qu'elle avait signé, pour lequel elle s'était engagée à respecter. Donc c'est un lieu dans lequel il y a de la tension, il n'y a pas que de la tension, Dieu merci. Hein, il y a beaucoup de moments heureux, il y a beaucoup de sourires, mais il y a aussi beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de tensions. Mais nous faisons avec. Notre lieu, sa vocation, c'est d'accueillir, comme le sont tous les lieux de estampillés Emmaüs, les recalés de notre société, les personnes que l'on ne veut pas voir, les personnes que l'on met en marge de notre système social. Notre vocation, depuis 72 ans, c'est d'accueillir, d'accompagner ces personnes-là et de vivre avec. C'est ce que nous faisons modestement ici. Les fermes, d'ailleurs, je parle de fermes au pluriel parce que nous sommes la 5e ferme en activité du mouvement Emmaüs. Il y a 4 autres fermes qui accueillent des hommes détenus.
Sur ce modèle ?
Sur ce modèle-là, qui accueille des hommes détenus. Nous sommes la seule qui accueille des femmes. Nous avons, continué à réinventer la solidarité. Nous avons créé un nouvel outil, donc les fermes qui font du maraîchage bio, parfois même de l'élevage, pour l'accueil de fin de peine de prison. C'est une façon de répondre à une demande, en tout cas une réalité qui était constatée que beaucoup de gens qui sortent de prison, et je pense aux 80% de ceux qui font des sorties sèches, c'est-à-dire sans accompagnement particulier, ils se retrouvent à la rue, et bien tous ces gens-là, il fallait répondre à leur désespoir, répondre à leur manque XX de liens sociaux, évidemment, mais aussi de travail, de lieu de vie dans la dignité, etc. Et donc c'est pour ça que l'on a créé ce type de ferme, pour répondre à ce besoin-là.
Vous avez employé un terme que j'ai relevé, qui à mon avis est très important, c'est leur rendre leur dignité. De femmes, tout simplement. D'êtres humains et de femmes.
Oui. Alors, C'est vrai que ces femmes-là ont eu leur dignité bien souvent, et je le dis parfois pour certaines, dès leur naissance, leur dignité a été piétinée, violemment piétinée. Et tout leur parcours de vie, pour la majeure partie d'entre elles, s'inscrit dans ce type de parcours. Et puis la prison, elles ont toutes connu la prison, qui est aujourd'hui, je pense, connue de tous comme un haut lieu d'atteinte à la dignité. Et tous les rapports, là aussi, convergent autour de cette idée-là, de ce constat dramatique. Et donc, ces femmes-là qui sortent de prison, ou en tout cas qui accomplissent une peine de prison, ici, elles rencontrent des éléments qu'elles n'ont pas connus en prison, et parfois bien avant. C'était le respect. Le respect, c'est la première des choses que l'on met sur la table lorsqu'elles arrivent. Quand je les reçois pour la première fois, autour de cette table-là.
Autour de cette table,
oui.
Ça se passe ici.
Oui, je leur dis, ici, je n'autorise personne à porter atteinte à votre dignité, à votre respect. Personne. Que ce soit les vocaux religionnaires, les autres résidentes, que ce soit les bénévoles, que ce soit les volontaires, que ce soit les membres de mon équipe professionnelle, que ce soit moi, personne n'a le droit de porter atteinte à votre dignité. Personne. Et je lui dis très clairement, s'il advenait qu'une personne ait ce type de comportement, ça serait de suite l'exclusion immédiate de notre lieu. Donc, la première des choses ici, c'est le respect et la confiance. Et la confiance. En prison, vous avez vite fait comprendre qu'on n'a pas confiance en vous. Que le système fait que lorsque vous rentrez au titre de détenu dans un établissement pénitentiaire, la notion de confiance n'existe plus. On ne vous fait plus confiance. Ici, c'est la confiance. Le projet est basé sur la confiance. La confiance accompagnée de deux cadres qui sont le règlement intérieur, évidemment, parce que pour vivre ensemble dans une communauté, il faut des règles. Et donc, il y a un règlement intérieur. Et puis, il y a aussi, évidemment, les désirs affichés par le juge d'application des peines par rapport à chacune de ces dames-là. Chacune a des obligations, parfois particulières,
selon
différentes.
Selon son histoire.
Donc, la confiance... Et le cadre, règlement, et celui du juge d'application des peines. Heureusement qu'il y a ces cadres-là, parce que la vie est souvent compliquée ici. Et je comprends parfaitement, parfois, les débordements, les abus de langage. Tout ceci est, dramatiquement logique. Et notre équipe d'accompagnants, bénévoles, nos volontaires, sont aussi des gens qui doivent accepter, dès le départ, cette réalité-là, parfois difficile à humainement supporter, difficile aussi professionnellement parfois à gérer, mais c'est un élément incontournable avec lequel il faut faire.
Je suis du coin et tout ce qui se crée dans le coin, on en est informé et j'ai trouvé l'idée.
Nicole, une bénévole.
Très 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 sympa et à soutenir. Bon, à ce moment-là, je bossais et depuis que je ne bosse plus, du coup, je me suis proposée comme bénévole.
Mais vous bossez d'une autre manière ici.
Voilà. C'est moi qui le souhaite.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites ici?
Je fais de l'aide sur le jour de récolte, le jeudi matin. Et puis, le lundi et le vendredi après-midi, je suis dispo pour servir de taxi, pour amener sur des rendez-vous médicaux les filles, ou des rendez-vous administratifs, sécurité sociale ou autre. Prénom, bon, je connaissais un petit peu le maraîchage et la découverte, c'est les personnes, quoi.
Le monde carcéral, c'était quelque chose que vous étiez totalement étranger.
C'est les rapports avec les personnes. Oui, mais bon, après, on est comme on est. Hein. Moi, il y a des fois, je cherche même pas à savoir si les personnes que je connais pas, c'est des nouvelles arrivantes ou bien des bénévoles comme moi. On se présente et puis on papote de tout de rien. Et puis voilà, c'est une façon aussi de prendre pied dans la réalité, quoi, dans le quotidien.
Il y a des liens qui se créent.
Oui, forcément. Ouais. Forcément. Il y a des personnalités très attachantes. On passe des bons moments, des bons fous rires.
Pour vous, c'est vraiment un lieu de vie.
Oui, absolument. C'est un lieu de vie, de communication, d'échange. Je n'y suis pas, mais parfois je sais qu'il y a des fêtes qui sont organisées, il y a des repas, des barbecues. Donc oui, c'est comme une vraie maison, une vraie famille. Après, j'imagine que comme dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. Mais...
Et autour de vous, dans votre entourage, vous en parlez ?
Oui. Ben, quand on me pose des questions, oui, j'en parle. Et puis les gens sont très, très agréablement surpris de savoir comment ça se passe. Mais après, en Pays Basque aussi, on n'est pas impressionné par le milieu carcéral parce que on a tous connu ou tous entendu parler de gens de notre village ou de notre environnement qui ont été arrêtés. C'est des gens comme nous. C'est pas de l'extraordinaire, quoi. Et par contre, le fait de vouloir soutenir la réinsertion, ça c'est formidable.
Mais moi je suis d'accord avec toi, ouais, ça va être bon ça.
Avec une pâte rapide, vite fait,
ouais.
On met au four un peu de fromage, on râpe un peu de fromage,
vas-y.
On fait passer.
Ouais.
Et.
Mais du coup, on fait les restes ?
Ouais.
Bah. 10h30, on cuisine avec Delphine, une résidente, Alban et Anouk, deux volontaires.
En fait, on était déjà venus l'été dernier dans le cadre des scouts. On est une équipe compagnon à l'origine et du coup l'été dernier on était venus pour faire notre projet et on a beaucoup aimé. Du coup cette année on y retourne, mais plus en tant que scout maintenant, c'est en tant que volontaire.
Qu'est-ce qui se vit ici ?
Ça reste une vie collective, donc c'est apprendre à vivre avec des grandes différences, parce qu'on sait très bien que enfin, on se cache pas, on a des vies très différentes des femmes qu'on peut voir ici, et avec des parcours très variés. Et du coup, c'est un mélange de différences avec tout ce qui engendre, donc des difficultés aussi, mais c'est ce qui est beau. Enfin, et je pense que tout volontaire qui vient ici, c'est ce qu'on recherche. En tout cas, c'est l'expérience
la rencontre. Est-ce qu'elle vous interroge, ces résidences, elles vous bousculent parfois, ça vous bouscule dans vos vies, dans vos propres vies, ça vous interroge ?
Oui, ça remet en question plus le fonctionnement de la société et de la justice en général, même. Oui, complètement. J'ai rajouté de l'eau.
Il est quelle heure, chef ?
Alban et Anouk ont retrouvé des résidentes rencontrées là l'été dernier. Certaines, comme Valérie, que je rencontre pour ma part à l'heure de la pause, vont bientôt quitter la ferme.
Je me suis levée en retard aujourd'hui.
Aïe, aïe, aïe. Donc il a fallu courir pour mettre les chaussures, pour aller dans les champs.
C'est ça.
Vous avez travaillé sur quoi ce matin ?
Le piment et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? La ciboulette. La ciboule.
Valérie, vous êtes ici la femme de Baudonne. Vous êtes arrivée à quel moment ? Ça fait combien de temps ?
Depuis décembre. Et j'ai été sélectionnée pour... Parce que Gabi disait tout à l'heure que j'étais sur le point du départ. Et j'ai été sélectionnée des étoiles et des femmes pour faire une formation CAP cuisine.
Vous faites la cuisine ici ?
Oui, on cuisine des produits de la ferme.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la cuisine ? Qu'est-ce qui vous plaît ?
Ben, tout, pouvoir inventer des plats. C'est le partage et puis j'aime beaucoup en fait donner un peu de mon temps pour les autres et pour pouvoir partager, c'est quelque chose qui me parle, quoi.
Quand vous êtes arrivée ici à la ferme, quelle était votre première impression quand vous êtes arrivée ? C'était quelle sensation ? Vous arriviez dans
une sensation de liberté. On était plus. J'étais plus. Je rentrais vraiment dans l'autonomie. Parce que quand on est incarcéré, quand il y a plusieurs mois qu'on a été en détention, on manque d'autonomie.
On n'a plus d'initiative.
Ouais, c'est ça. Ouais.
tout est décidé pour vous.
C'est ça.
Et ici, vous apprenez, enfin, vous réapprenez
à l'autonomie,
à être responsable,
à se débrouiller aussi, quoi, avec tout l'aide qu'on nous apporte.
Qu'est-ce qui se vit ici? Il y a des moments de joie, des moments de tristesse, des moments difficiles de vivre ensemble aussi, peut-être.
Ouais, hein. Des fois, enfin, moi, j'ai eu un peu de mal à vivre ensemble. J'ai eu du mal à m'adapter. Mais après, ça c'est. En fait, ça se traduit, c'est que je m'entends avec tout le monde, quoi. Mmh. Et c'est ça qui est bien.
Et puis, vous avez un projet?
Oui. Un projet qui avance pas mal, donc j'espère commencer la formation le 19 septembre.
Il y a un petit peu d'appréhension aussi.
Oui, se retrouver un peu seul dans l'appartement, ça me fait un peu peur, quoi. Mais après, je prends mon envol et puis je me dis que ça va se faire, quoi.
Puis vous êtes bien accompagnée, vous garderez des liens peut-être ici, oui, aussi avec la femme.
Oui, c'est ça. Mais je vais garder des liens.
Aïcha, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes arrivée ici à la ferme de Bodone?
Oui, c'était, bien sûr. Oui. Je me souviens très bien la première fois. Ouais. C'était le 16 novembre 2019.
Vous étiez la première résidente à arriver ici
à la ferme Bodone, oui, je suis la première.
La première,
oui.
À vivre cette aventure. Est-ce que c'est une aventure pour vous?
Déjà, je ne m'y attendais pas que je serais été la première, mais j'étais très bien accueillie. Et, maintenant que je suis libre, ça a été une expérience qui a été vraiment utile. C'est un sas entre la prison et la liberté au lieu d'avoir une sortie sèche comme ça. Mmh. Et je trouve que ce lieu-là m'a vraiment aidé à, en fait, que je ne me retrouve pas sous un pont, par exemple.
Et il vous a aidé en quoi, par exemple, ce lieu?
Ben, déjà, quand tu arrives ici, tu seras rémunéré pour le travail qu'on fait dans les champs. Et donc, tu peux mettre de l'argent de côté pendant, juste avant que tu sortes, que tu puisses au moins payer ton loyer. Et voilà.
Ils vous ont fait confiance?
Ben, là, c'est la base quand tu arrives ici, c'est la confiance. Oui. Donc, ce sont des premières choses qu'on te fait savoir que, entre la structure et la personne qui intègre dans la structure, que la confiance doit être la base. Quoi. Donc, c'était très familial, c'était très accueillant. C'est rien à voir avec le traitement que tu as en prison. On t'accepte comme tu es. Voilà.
Votre projet à vous aujourd'hui, Aïcha, puisque vous êtes ici encore, pas en tant que résidente, mais toujours en tant que salariée, ouais, c'est dur de quitter la ferme. C'est dur de quitter ici un petit peu ce cocon, peut-être, où vous avez été accueillie.
Je ne dirais pas que c'est dur, mais en fait, je suis sortie, mais cet endroit, j'apprécie tellement que je peux aussi être bénévole. Il y en a beaucoup de résidents qui sont sortis, qui ont bien aimé la façon qu'on nous a traités, qu'on nous a accueillis, qu'ils sont maintenant aussi des bénévoles à la ferme. Donc, ça prouve qu'en fait, le lieu te donne quand même les outils que tu as besoin.
Oui, puis une partie de vous est un peu ici encore, à la ferme.
Oui, c'est ma seule famille. La mienne est en Guyane, donc ici, c'est ici que je suis, dans ce stade-là que j'étais. Et donc, c'est ma première famille ici en France, oui. Voilà.
Et en sortant de la prison, parce que je regarde par l'extérieur et je vois ces arbres magnifiques, cette grande allée. Elle découvre aussi, en sortant de la prison, de ces cadres gris, elle découvre la beauté.
Elle découvre le bon et le beau. Le bon au travers de ce qu'elle mange. Hein. J'ai toujours considéré et revendiqué pour les gens que l'on dit pauvres, le droit au beau et au bon. Hein. Et ici, on essaye effectivement de leur donner, qu'elles aient en tout cas accès au beau et au bon. Au bon avec ce qu'elles mangent. Au beau, ben, parce que le cadre est magnifique, très arboré.
c'est un lieu dans lequel on sent un lieu apaisé, on sent un lieu propice au retour sur soi. Hein. Et le retour sur soi, même si pour certaines d'entre elles, on est loin du compte, il peut être douloureux, mais c'est un exercice qui peut être soutenu grâce, j'allais dire, au lieu dans lequel nous sommes.
Vous-même, Gabi, je peux vous appeler Gabi, comment on
Bien
dit
évidemment.
Gabi, vous aviez un lien avec la terre. Vous êtes enraciné dans cette terre du Pays Basque, je crois.
Je suis enraciné sur la terre du Pays Basque. Mais je tiens à signaler que nous sommes à Tarnos, qui est cité landaise, ne provoquons pas plus de déchirures. Mais je suis effectivement très attaché à mon terroir, à ma terre. Ma mère était paysanne, mais je n'ai jamais eu à travailler la terre. Et je vous présente, alors c'est très peu radiophonique, mais je vous présente mes mains. Ce ne sont pas des mains de terrien. Vous voyez qu'elles sont extrêmement lisses et ce ne sont sûrement pas des mains de gens qui travaillent la terre au quotidien. Les résidentes que j'ai ont des mains plus marquées que moi au niveau du travail de la terre. Mais je sais, comme beaucoup de gens savent, le bien, l'intérêt qu'il y a à travailler la terre. Le bien, j'allais dire, presque d'un point de vue santé, avoir ce rapport charnel avec la terre. Et ici, on voit le grand bien que fait la terre, ce travail-là, à certaines femmes, avoir de la graine qu'elles mettent en terre, dans la serre à plant, devenir
une petite pousse.
Qu'elle mette en terre, qu'elle accompagne avec amour pour qu'elle grandisse, à la cueillette, à la vente, à la production de repas, ici avec ce qui n'était au début qu'une graine. Eh bien, tout ceci, effectivement, amène à un rapport à la vie que certaines d'entre elles n'ont jamais eu, un rapport à la responsabilité que certaines d'entre elles n'ont jamais eu. Et là, de la graine à l'assiette, ou à l'étal les jours de vente, il y a un processus qui est extrêmement vertueux, qui est leur processus, dont elles sont responsables par leur travail.
Donc ça c'est les pourpres, ça c'est jusqu'au bout, et après... celle-ci, voilà, c'est les fourches. Alors il n'y en a plus parce qu'elles ont tout mangé. pareil, toi, bah, celles-là sont un petit peu plus sales, là, mais les fruits... Il faut que ce soit bien orangé, marbré, comme ça.
Toi, celle-là, elle est trop et je vous présente Alex, qui est le mentor de ce lieu. Je disais, mes mains ne sont pas des mains vertes. Les siennes, ce sont des vraies mains, des vraies mains de maraîcher. Voilà.
Bonjour Alex. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
On fait la récolte. La récolte de la semaine, on récolte une fois par semaine, à part certains légumes. Pour préparer les ventes déjà sur place cet après-midi là, le jeudi après-midi.
Tous les jeudis après-midi.
Voilà. On vend en direct et après on vend aussi au marché de Bayonne le samedi matin.
Alors là, ce sont des tomates, mais elles sont belles, elles sont magnifiques.
Voilà. On a un certain nombre de tomates, ce qu'on appelle variété ancienne, avec toute une panel de couleurs, quoi, que ce soit orange, rose, vert, vert jaune, et puis après rouge classique ou des tomates allongées. On a aussi une variété locale de très grosses tomates, un petit cœur de bœuf, mais encore plus gros, avec des tomates qui peuvent aller jusqu'à 1 kg. Voilà, et puis après il y a tous les autres légumes. On a aussi donc des petites tomates, des tomates cerises, on a des aubergines, on a tout un panel aussi de variétés différentes. Courgettes aussi sur différentes variétés. L'idée globale, c'est la diversité. On fait souvent, c'est par rapport à ce qu'on peut appeler comme une exploitation maraîchère classique, on est sur des beaucoup plus petits volumes, mais on va essayer de diversifier beaucoup plus l'offre et essayer de taper un peu sur des choses un petit peu plus originales. On fait des essais plus ou moins réussi, mais on a quelques bonnes réussites qu'on réitère du coup. Et voilà, c'est un peu l'idée, c'est de voir un maximum de choses pour les résidentes, quoi. C'est plus ludique, on va dire, que de faire une monoculture ou deux trois choses simplement, quoi.
Et justement, avec les résidentes, comment ça se passe? Certaines, elles découvrent le travail de la terre pour la première fois.
La très grande majorité, il y a quelques-unes qui avaient des potagers.
Mais la très grande majorité, c'est une première, quoi. Et globalement, ça se passe très bien. Hein. Vous pouvez le voir, constater, là, tout le monde, voilà. Tout le monde travaille, tout le monde a ses tâches assignées, et puis tout le monde est autonome. Hein. De temps en temps, voilà, on m'appelle pour une question ou pour enchaîner sur la tâche suivante. Mais sinon, voilà, tout le monde est en autonomie, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Moi, je donne les explications au départ, et puis après, voilà, après, elle se débrouille. C'est le but, hein, de toute façon. Hein, le but, c'est de réapprendre à se débrouiller tout seul, puisque l'incarcération, c'est l'antithèse de ça, quoi. On décide de rien, et ici c'est l'apprentissage de je dois faire des choix, je dois faire des décisions. Moi je fais exprès de les laisser un petit peu se débrouiller, des fois un peu galérer, c'est comme ça qu'on prend en assurance, c'est comme ça qu'on prend en autonomie et qu'on reprend une dynamique, quoi.
Et ici dans l'environnement, avec les voisins, avec les personnes, vous êtes une véritable insertion.
Les débuts ont été très compliqués, pour être franc. On a eu clairement une pétition contre le projet au départ du voisinage. Je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, surtout avec des idées complètement farfelues qui circulaient. Les gens, bon, à juste titre, ça je peux tout à fait le comprendre, les gens pensaient qu'ils allaient avoir des miradors et un mur de 6 mètres devant chez eux, donc forcément ça peut inquiéter, quoi, hein. Ils ont entendu prisonniers, ils pensaient avoir un centre pénitentiaire, quoi. Et les agriculteurs qui ont été aussi assez rugueux, il y a eu une manifestation ici sur le site, hein, contre le projet. Tout ça, ça pèse, quoi, parce que finalement, les voisins, ils voient bien que c'est pas du tout... ça n'a rien à voir avec un centre pénitentiaire, et que plutôt que d'avoir un champ de maïs plein de pesticides, ils ont une exploitation maraîchère en bio. Donc je pense qu'ils ont tout à y gagner. D'ailleurs, maintenant, je pense qu'il y a vraiment une majorité qui vient se fournir chez nous, quoi, parce qu'on leur apporte un service au pas de la porte. Et quant aux agriculteurs, ils voient qu'on produit comme tout à chacun, comme n'importe quelle exploitation maraîchère. Et donc, ils n'ont plus rien à redire, quoi. Parce que les arguments qui circulaient au départ, c'était qu'on allait squatter une terre agricole pour rien y faire, quoi. On prouve que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, à partir de là, pour l'instant, en tout cas, il n'y a vraiment plus du tout de bruit négatif sur le projet, quoi. Bien au contraire, il y a plutôt une autre dynamique qui se monte là.
Il fallait apprendre à se connaître, tout simplement.
Ce qui est compréhensible, c'est les peurs de départ, quoi, les fantasmes. Il y a une image négative de départ qu'il faut déconstruire, et à partir du moment où les gens voient que il se passe rien d'exceptionnel, ça rentre dans l'ordre tout seul, quoi.
C'est une longue histoire qui a ramené Gaby Mouesca jusqu'à la ferme de Bodone. L'histoire d'un jeune homme qui, dans les années 80 du XXe siècle, engagé dans le mouvement Iparitarac, organisation politique armée, se battait pour cette terre qu'il ensemence aujourd'hui et qu'il fait rayonner désormais de façon pacifique.
Alors, dans ma prime jeunesse, j'étais à l'âge de 15 ans, je militais dans une association culturelle qui défendait la langue et la culture basque. Donc j'ai un engagement, qu'on dira, précoce. Et puis assez rapidement, comme au Pays Basque et ailleurs, entre la culture et la politique, il n'y a qu'un petit saut à passer. Je me suis engagé aussi politiquement au sein de ce qu'on appelle le mouvement de libération nationale et sociale du peuple basque. Donc j'ai fait de la politique classique. Et puis rapidement, c'était dans les années 80, c'était, j'allais dire, un phénomène plutôt courant au Pays Basque et ailleurs, que ce soit en Bretagne, en Corse et dans divers contrées dans le monde. Il y avait ce qu'on appelait aussi l'utilisation de la violence armée. Hein, j'étais militant d'une organisation qui s'appelle Iparitarac, qui est, pour faire court, ce qu'on appelait le terrorisme basque. J'étais militant de cette organisation-là, ce qui m'a amené évidemment à connaître la prison, hein, parce que ce type d'engagement, au bout, c'est soit la mort, soit la prison. Donc j'ai connu la prison. Pendant 17 ans, j'ai vécu 17 ans en prison. J'ai eu une petite...
un petit éclair de liberté qui a duré 6 mois, parce que je me suis évadé en décembre, 13 décembre 86 de la prison de Pau. Mais en tout, j'ai fait 17 ans de prison. Et au sortir de la prison, j'avais 40 ans. Je suis rentré à 23 ans, je suis sorti à 40 ans. Et j'ai travaillé à la Croix-Rouge française, au service centraux, à Paris. C'était du temps où le professeur Marc Gentilini était le président de cette grande institution. J'y suis rentré grâce à un des directeurs qui était un petit peu mon second père, Pierre Pradier. Pierre Pradier, un grand médecin, urgentiste, natif de Biarritz, qui a été député européen et qui, après un mandat de député européen, est devenu un des directeurs de la Croix-Rouge. Et quand il était directeur, il m'a embauché. Mais avant, lorsqu'il était député européen, il avait écrit un article dans Sud-Ouest, parce qu'il était responsable au Parlement européen, de la résolution des conflits. Il avait fait toute une page d'interview dans Sud-Ouest, où, entre autres, il évoquait le nom de mon organisation de façon tout à fait, j'allais dire, excessive. Et allez savoir pourquoi, là aussi, c'est comme ça. J'ai pris ma plume au fond de ma cellule et je lui ai adressé un courrier au Parlement européen où, point par point, je lui disais ce que je pensais de son interview. Ça en est suivi un échange de courriers fréquents, réguliers. On est passé du « vous » au « tu ». Et puis, il a demandé à venir me visiter. Et il m'a visité, c'était à la prison de Moulins, dans le centre de la France. Après m'avoir vu, il est allé voir le directeur. Et M. Dupas, directeur, l'a rencontré, forcément, un député européen. Il lui a dit, le problème avec M. Mosca, c'est qu'il a la nuque raide. Oh, c'est un mot que j'ai trouvé extrêmement gentil, enfin j'allais dire même spirituel quelque part. Et j'allais dire même d'origine biblique, hein, il faut rappeler, on parle du peuple juif, le peuple à la nuque raide. Et donc ce directeur de prison, M. Dupas, a utilisé ce terme face aux députés. Quelques années plus tard, j'ai utilisé ce bon mot comme titre intitulé d'un de mes livres. Et donc voilà, un lien fort s'est fait avec Pierre Pradier, tellement fort qu'après il s'est vraiment engagé pour me permettre de sortir de prison. Et quand je suis sorti de prison, lui, il était directeur, donc un des 5 directeurs de la Croix-Rouge française. Ils m'ont embauché comme chargé de mission prison, évidemment. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré, c'était à 7h du matin, le président Gentilini. Et cet homme proche de la famille Chirac, de monsieur et madame Chirac, m'a dit les yeux dans les yeux, je réprouve totalement vos convictions politiques, mais j'ai besoin de vous. Il a utilisé le même terme que l'abbé Pierre, j'ai besoin de vous. Mais en disant, en affirmant clairement que, évidemment, la conviction politique, il ne les partageait absolument pas. Ça n'a pas empêché que je sois resté 3 ans et demi donc, au service centraux et que j'avais la responsabilité au niveau national de tout ce qui touchait les bénévoles et l'action de la Croix-Rouge dans les prisons françaises et hors des prisons.
Ça n'empêche pas l'estime.
Bien évidemment. Et j'ai un grand respect et je pense que, et je le sais, le président Gentilini, qui, Dieu merci, est toujours parmi nous, m'apprécie. Voilà. Et puis après la Croix-Rouge, eh bien, je suis devenu le président de l'Observatoire international des prisons au niveau national, l'OIP, donc, qui était le contre-pouvoir du ministère de la Justice en matière de politique carcérale. J'ai eu l'honneur, le privilège d'être donc, le président de cette structure. Ça a été 5 ans extrêmement importants, là aussi, où j'ai eu une action citoyenne voilà, qui me semble importante, comme l'ensemble des militants et des militantes de l'OIP. Suite à ça, j'ai travaillé pendant 2 ans pour le gouvernement. J'avais en charge une expérimentation sociale sur 3 départements, une expérimentation sociale dont l'objectif était de créer un outil qui permette aux prisonniers les plus pauvres d'avoir accès aux aménagements de peine. Évidemment, comme beaucoup de rapports très intéressants ils ne sont pas repris, ils sont aujourd'hui sûrement au ministère de la Justice à caler une porte ou une armoire, bref. Mais en tout cas, pendant 2 ans, j'ai une expérience aussi là, qui était extrêmement intéressante sur 3 départements. Et suite à ça, eh bien, je suis revenu au Pays Basque. Nous avions engagé le processus de paix, il y a 12 ans de ça, et j'ai été chargé de créer l'outil qui permette aux prisonniers et aux réfugiés politiques basques de retrouver dans la dignité le Pays Basque dans le cadre de ce processus de paix. Et puis après est arrivée l'aventure de Bodone, la ferme Emmaüs Bodone, qui m'amène aujourd'hui à vous parler. Voilà.
Un peu plus tard dans la matinée, Gabi se fait notre guide et nous fait visiter la ferme. Nous arrivons près de l'école.
Autre originalité de notre lieu, c'est que nous avons en dessous une école alternative. C'est l'association OZ, qui a 43 élèves de 3 à 11 ans. Ils ont aujourd'hui une liste d'attente de plus de 200 élèves. C'est une école alternative type Montessori. Mmh. Ce n'est pas que ça. Et là aussi, ils sont locataires du lieu. Et pourquoi ai-je invité cette école ? Parce qu'il y avait une phrase qui m'était très chère de Victor Hugo qui disait « Quand on ouvre une école, on ferme une prison. »
Puis nous avons quitté la ferme de Bodone. Longtemps encore, sur le chemin du retour, j'entendrai les rires, les éclats de voix des résidentes. Je me rappellerai leurs gestes attentifs et précis dans les champs, leur lassitude sur le coup de midi, leur fierté au moment de la vente, leur espérance dans cet avenir qu'elles tiennent dans leurs mains. Et puis enfin, je ne serais pas loin de penser qu'il y avait peut-être un peu de Jean Valjean chez cet homme qui me citait Hugo.
Merci à Marie-Pierre Pavlak et à tous ses intervenants pour ce reportage. Et comme tous les jours, on se retrouve pour l'actualité de l'Église dans votre région.
Église Actualité, Timothée Rouvière.
Plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà à noter pour ce week-end. Samedi, le Grand Couvent de Gramat organise une halte spirituelle, argile et prière, avec comme intervenant l'artiste peintre et céramique Tan Bui, ainsi que sœur Catherine de Montpezat et sœur Marie-Cécile. La halte spirituelle, elle, dure 2 jours, samedi et dimanche. Et si vous voulez vous inscrire, il faut envoyer un mail à animation@grandcouventgramat.com, animation@grandcouventgramat.com. Ou sinon, vous pouvez appeler le 05 65 38 73 29, 05 65 38 73 29. Si vous êtes sur Toulouse, le groupe de prière toulousain Saint-Louis de France propose de son côté de participer au rosaire mensuel pour la France avec la possibilité de réciter partiellement ou totalement le rosaire. Cela se passe entre 14h et 16h ce samedi à Notre-Dame de la Dalbade. Toutes les informations au 06 10 32 56 99. 06 10 32 56 99. Et pour clôturer cette église actualité, le diocèse de Pamiers propose de participer au pèlerinage des familles à Notre-Dame de Celles ce samedi entre 10h et 16h30. Le pèlerinage débute à l'église de Saint-Paul de Jara. Les précisions sur ndde-celles-ce-2-les-gmail.com. C'est la fin de cette église actualité. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités religieuses dans votre région.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Et c'est la fin de cette émission. Je renouvelle mes remerciements à Marie-Pierre Pavlak et tous ses intervenants pour ce reportage. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous vous proposons de réécouter cette émission ce soir à 21h en rediffusion. Et vous pouvez la retrouver dès à présent en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre radio.